la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur JetFM et cette semaine, tout est politique. C'était le nom d'une exposition fameuse consacrée au dessinateur Willem, dessinateur de presse, mais pas seulement, à Rennes, à l'initiative de Périscopage en 2001. Alors je reprends cette interjection, tout est politique, parce que c'est assez vrai très souvent, pour vous parler de trois livres dans cette chronique « Je lire ». On commence avec les formidables éditions strasbourgeoises 2042, dont je parle assez souvent ici, qui poursuivent leur double mouvement vers le patrimoine et vers la création contemporaine, la plus jeune garde de la bande dessinée. On commence avec le patrimoine et avec FMUR qu'il commence à rééditer de très belle manière depuis un ouvrage paru fin 2025. Voici le deuxième qui sort tout juste, baptisé « Le char de l'État dérape sur le sentier de la guerre ». Petit résumé rapide, si vous n'avez jamais eu accès au travail de FMUR, c'est un auteur décédé un peu prématurément en 2018 qui a donné quelques très belles pages de bande dessinée à la fois absurdes et sarcastiques, notamment dans la série Le génie des alpages, qui est toujours disponible aux éditions d'Argo. Mais une partie de ses ouvrages n'était plus disponible, notamment tout ce qui avait été édité dans le magazine À suivre dans les années 80, et ce qui avait donc souvent fait l'objet de livres chez Casterman qui n'ont pas été repris depuis dans le catalogue de cette maison. Fort heureusement, les éditions 2042 reprennent le flambeau pour quelques livres donc, et celui-ci qui, pour le coup, m'avait complètement échappé dans les années 80. Il a été publié entre 1985 et 1986 en feuilleton dans la revue À suivre et repris en album ensuite. Et il s'intitule « Le char de l'État dérape sur le sentier de la guerre ». Et c'est la seule incursion de FMUR dans quelque chose de très contemporain de son époque, c'est-à-dire la guerre qui se déroulait à ce moment-là entre la Russie et l'Afghanistan, entre l'URSS d'ailleurs à l'époque et l'Afghanistan. Les soviétiques avaient envahi l'Afghanistan en 1979 et la guerre s'est déroulée pendant plusieurs années, faisant de nombreux morts évidemment, et avec des enjeux géopolitiques très très puissants. Et c'est donc à partir de ce matériau très réel, très concret et très contemporain, du moment où il dessine ses pages, que FMUR fait cette sorte de fantaisie très sarcastique. Il y a toujours évidemment de l'humour, mais quelque chose de très grinçant dans le rapport qu'ont les paysans afghans avec l'envahisseur soviétique qui débarque en char. Et il y a un rapport de force qui parfois s'inverse par justement une forme d'absurde et d'amusement, de sarcasme ou de mise en esclavage de quelques soldats soviétiques qui ont été capturés et qui doivent remplacer ce qu'ils ont détruit. Par exemple, s'ils ont tué l'âne d'un paysan, eh bien ils doivent faire l'âne et porter des charges. Par le biais de cette forme humoristique et avec, comme souvent chez FMUR, des animaux qui parlent, eh bien on est à la fois dans quelque chose de très concret, avec une représentation des montagnes afghanes et des endroits de conflit, et puis quelque chose qui échappe complètement comme une fable à toute forme de réalité tangible. Et pourtant, ça dit beaucoup sur, évidemment, les absurdités de la guerre, mais plus encore ce conflit géopolitique qui était très puissant et qui surtout amenait deux visions du monde complètement différentes entre les envahisseurs et les envahis. C'est donc dans un très grand et beau format que les éditions 2042 republient en bichromie ce livre de FMUR qui, comme chaque fois dans les rééditions qu'ils font ou qu'ils vont faire autour de FMUR, un auteur contemporain, une autrice contemporaine commente, fait un avant-propos. Ici, c'est Mathias Lehmann qui donne sa lecture de ce livre et qui donne un avant-propos donc à cette bande dessinée. Le char de l'État dérape sur le sentier de la guerre. Alors, si vous vous intéressez au travail de FMUR, eh bien, il y a pas mal d'actualités ces temps-ci, puisque débute à partir du 6 mars et jusqu'au 30 août 2026 au musée Thomae Ungerer de Strasbourg l'exposition Aho, c'est l'écho, l'esprit de FMUR, annotée par Camille Pott, magnifique autrice qui a publié un très beau livre baptisé Balade aux éditions Atrabile et qui revendique l'héritage de FMUR, en tout cas l'influence de FMUR dans son travail en bande dessinée. Eh bien, ça a été pris au pied de la lettre par la commissaire de l'exposition et qui est allée la chercher pour faire des commentaires graphiques autour du travail de FMUR dans cette exposition Aho, c'est l'écho. N'hésitez pas, si vous passez par Strasbourg, à aller voir cette exposition qui prend corps également dans le cadre des rencontres internationales de l'illustration qui ont lieu chaque année au mois de mars à Strasbourg. Et puis il y aura d'autres éditions, rééditions de FMUR très bientôt, notamment Jeanne au pied du mur et Tim Galère aux éditions 2042. Alors je le disais, tout est politique et les éditions 2042 font un très beau travail à la fois sur le patrimoine comme on vient de le voir et la contemporanéité de la bande dessinée. Et bien c'est un tout jeune auteur qu'il publie, en tout cas le premier livre de cet auteur publié aux éditions 2042 est sorti il y a quelques semaines et s'intitule « Trop tard », l'auteur c'est Baptiste Delanguaigne. Alors de quoi s'agit-il ? Le mieux serait presque de vous lire ce qu'il y a sur la couverture, parce que c'est un format souple, une façon entre le comics et le manga, et c'est justement autour du manga qu'on peut trouver les plus grandes références que propose ici Baptiste Delanguaigne. Notamment l'évidence, c'est l'influence directe de Tezuka, revendiquée par l'auteur, et même il a appuyé certains éléments graphiques de l'héritage Tezuka pour son récit. Le récit, c'est un récit politique, mais c'est aussi une fantaisie, c'est une cavalcade, c'est une sorte de course-poursuite, une enquête, mais tout de même avec quelque chose de sombre qui sourd à travers toute cette fantaisie sur les montées des extrêmes droites notamment, de la violence et du terrorisme. Avec en quatrième de couverture par exemple ce résumé « Rien ne va plus, c'est la pagaille, tout fout le camp et le cousin Alain a disparu ». Parti à sa recherche, Claudine tombe aux mains de la bande des Mamelouks, des fanatiques de Napoléon qui projettent de conquérir le monde avec des bustes de l'empereur. Ça semble fantaisiste, mais c'est tout à fait réaliste dans l'histoire, puisque eh bien, ces Mamelouks vont s'avérer à la fois souvent stupides, mais surtout très violents pour réussir à arriver à leur dessein. Et ils ont une vision du monde extrêmement nationaliste et extrêmement impériale. Ils vont donc tenter de prendre le pouvoir en profitant d'une sorte de flou électoral qu'on peut connaître dans nos contrées ces temps-ci. Je vous livre par exemple les premières pages qui sont une sorte de monologue intérieur que fait un personnage qui devient puissant dans les premières pages. Nous tomberons sur eux avant qu'ils puissent dire « ouf ». Un signe de moi et ce sera la chute du gouvernement. Et alors là, la voie sera libre pour nos amis. Et si ça ne se passe pas comme prévu, si le président Charru bouge, j'ai 10 hommes dans chaque faubourg, prêts à faire crever tout un peuple contre mes adversaires. Dire qu'il y a 3 ans à peine, je dormais entre des colonnes de papier abruties par le salariat. Maintenant, dans une berline à chauffeur, je dessine l'avenir d'une nation entière. Qui pourrait me blâmer de m'être enrichi au passage ? J'ai su tirer ma part de ce chaos. Tout ne fut pas propre. C'est ce qu'il fallait pour sortir de l'ombre. Ce que j'ai fait, personne d'autre n'aurait pu le faire. Et ils voudraient que j'en aie honte, tous ceux-là qui ont assez d'ancêtres pour diluer la leur. Mais moi, fils des désespérés, je sais d'où je viens. Et je sais ce qu'il faut de saloperie pour s'élever depuis ce coin-là du monde. Je vais maintenant les faire cracher au bassinet de ma gloire. Bientôt, la ville sera à moi. Pourquoi cette mélancolie alors ? Là, ce sont les premières pages de « Trop tard » de Baptiste Delanguaigne. S'en suivent une sorte d'enquête, course-poursuite, mélange de préparation de la Révolution et de coups un peu foireux que le personnage principal, qui s'appelle Claudine et qui est d'ailleurs suffisamment androgyne pour rappeler certains et certaines des héros et héroïnes de Osamu Tezuka, eh bien, va essayer de retrouver son cousin Alain. Le retrouvant va se trouver embarqué dans cette bande de Mamelouks sans trop savoir si politiquement il est situé au bon endroit. C'est donc une histoire qui se lit avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a toutes ces références aux mangas d'action, mais aussi, si on repousse un peu plus loin encore les références, si on dépasse Tezuka, Tezuka était lui-même très influencé par la bande dessinée américaine et le film d'animation américain, notamment les premiers Disney. Donc on retrouve certains éléments qui peuvent être présents chez Disney dans ses tout premiers travaux, ou encore chez le Popeye de Cigar, ou par exemple ce genre de références. Et pourquoi pas aussi, puisqu'il était lui-même influencé par les bandes américaines, le tout premier dessin assez rond de Maurice dans les premières aventures de Lucky Luke. On pourrait retrouver tout ça, mais bien d'autres choses, dans les influences graphiques revendiquées de Baptiste Delanguaigne. Et je vous parlais de la couverture étonnante de ce livre des éditions 2042. C'est un rabat transparent qui recouvre une couverture bleue avec plusieurs dessins qui eux-mêmes ont leur propre couleur, jaune, vert, rouge, de manière très franche, là aussi très proche de l'esprit Maurice, avec des personnages, des actions un peu partout disséminées dans la couverture, et plein de lettrages qui donnent comme une espèce de bande-annonce ou d'accroche publicitaire. 184 pages patriotiques. Course, course, des fans de Napoléon à la conquête du monde. Un jeune homme à la recherche de son cousin. Un coup d'état fasciste. À tomber par terre. Baptiste de Langaigne, trop tard, par un jeune auteur qui allait dans l'ongue, déniché par les éditions 2042. Intrigue politique, enlèvement, course-poursuite, meurtre, bagarre, révolution, et bien plus encore dans cet album unique, rien n'a été oublié pour vous livrer l'ultime distraction française. 23 euros, ratatatata, avec les personnages Cerise, Alain, Plomb, Seigle, Lavande, Claudine, Vive la Nation, Vive tout ça. Voilà, ça c'est la couverture, la première et la quatrième de couverture, qu'on peut déployer complètement. Et c'est donc encore une mise en page assez audacieuse et tout à fait logique par rapport au contenu que proposent les éditions 2042, avec ce trop tard donc de Baptiste de Langaigne que je recommande très fortement. Enfin, le troisième et dernier livre de cette sélection plutôt politique et tout en bande dessinée, eh bien c'est un ouvrage de Baraka Grafica baptisé « Idées noires ». Récit d'exil des mains des sans-papiers, publié aux très belles éditions Frémok. Alors le studio Baraka Grafica, c'est 8 auteurs-autrices avec et sans papiers, un collectif qui fait de la bande dessinée à 16 mains, comme il l'est indiqué sur la quatrième de couverture. Et c'est un outil de revendication, donc on suit les trajectoires de quelques-uns, des personnes qui ont bien voulu livrer leur récit et qui les dessinent et qui entrent dans le récit par le dessin pour raconter leur récit d'exil qui viennent de différents endroits du globe, mais très souvent du continent africain. Amandine Berthollet, Simon Boila, Augustin David Liosa, Tierno Dia, Mamadou Taslim Diallo, Alberto Isifin Chama, Alidou Wandaogo et Margot Préham sont les autrices et auteurs de ce studio Baraka Grafica. C'est un très grand et beau livre donc aux éditions Frémok, tout en noir blanc, avec du crayon, quelque chose d'assez charbonneux dans la manière de composer les images. Images donc toutes dessinées à plusieurs et qui permettent d'avoir des endroits de bande dessinée tout à fait nouveaux et intéressants dans la manière de composer l'image, d'enrichir des détails. Chacune, chacun a pris part à l'intérieur même des cases à différents moments de ce récit. Des récits qui passent évidemment aussi par les mots, mais finalement très peu, assez peu, avec beaucoup de travaux d'illustration, de passages, de séquences qui permettent de comprendre la douleur, la difficulté, la violence des récits d'exil et les différents déplacements que vont connaître les personnes qui témoignent, qui ont donc dessiné aussi. Et c'est, à ma connaissance, la première fois où il n'est pas seulement question d'illustrer le récit de quelqu'une ou quelqu'un, mais de participer avec elle ou avec lui à la création de ce récit en dessin, en bande dessinée, en histoire, en narration, en texte. Et ça donne donc des récits multiples, chorales, mais aussi qui s'enchassent et qui se recoupent et parfois rebondissent les uns sur les autres par rapport au territoire, par rapport aux trajectoires et par rapport aux différentes destinées qui toutes atterrissent à Bruxelles ou en Belgique, qui est l'endroit des éditions Frémok et l'endroit aussi où s'est constitué ce studio Baraka. Idées noires, récit d'exil des mains des sans-papiers par le studio Baraka Grafica. C'est un livre très marquant que les éditions Frémok viennent de publier pour 22 euros et qui est urgent, intéressant, important de lire, qui est aussi augmenté d'une postface nécessaire qui explique, donne quelques clés sur le travail à l'œuvre dans cette manière tout à fait nouvelle de faire de la bande dessinée à 16 mains, et puis cette manière aussi d'utiliser le livre comme un outil de revendication, et pas seulement comme un tract ou un témoignage. Alors forcément, en lisant ce livre, je pensais au morceau de Bruit Noir, le duo de Jean-Michel Pires et Pascal Boisiz, baptisé Le Visiteur dans leur quatrième album.
Bon, j'étais assis là, à l'Armée du Salut. Je faisais un atelier d'écriture. C'est comme ça qu'on dit. La plupart du temps, je suis pas chanteur, je suis pas la star que tout le monde connaît. Non, comme tous les artistes ratés, on finit soit prof, soit on fait des ateliers. Moi, je fais des ateliers. Des ateliers poésie au collège, à l'hôpital, à Emmaüs, à Brest. Les plus grands poètes que j'ai rencontrés, c'était des enfants, migrants, mineurs, isolés. C'était les gars du CPN à Nancy. J'ai rencontré des gens, je vous raconte pas, ça vous déchirerait le cœur. Et puis, je suis pas là pour recycler la misère, ou la joie de le faire, ou vous raconter ma vie. Celui qui croit que je raconte ma vie depuis le début, il a rien, mais rien compris. Bref, bon donc, j'étais là à l'Armée du Salut à Paris avec mon petit atelier d'écriture de poésie. Ce jour-là, il y avait personne avec moi, j'étais tout seul, avec toute ma belle culture à partager, tout mon amour de l'humanité, seul comme un con, comme un rendez-vous raté, comme Guillaume Depardieu dans Les Apprentis ou comme Cluzet dans le même film, skieur d'escalier. Bref, j'étais mal embringué. Personne voulait écrire de la poésie. Ce jour-là, bizarrement, la misère avait autre chose à branler. Bref, il y a un petit gars qui rentre dans la salle et peut-être il a eu pitié de ma solitude. Il est rentré comme ça dire bonjour. Bonjour, j'ai dit. Bonjour, Pascal, j'ai dit que je m'appelais. Enchanté, je lui ai serré la main. Bonjour, monsieur Pascal, il a dit. Et vous, comment vous vous appelez? Hassan. Bonjour, monsieur Hassan, j'ai dit. J'ai dit comme ça, pour causer, poli, gentil. Vous venez d'où, monsieur Hassan? Centrafrique. Ah, ouais. Bah c'est loin, j'ai dit. Ça a dû être un sacré voyage, j'ai dit. Oui, il a dit, oui, oui. Un jour, j'ai dit, faudra que vous me racontiez. J'ai dit, manière d'être gentil, poli, manière d'être bien éduqué. Un jour, comme ça, faudra que vous me racontiez. Ah d'accord, il a dit. Et là, il m'a tout raconté, d'un coup. Dans la salle aussi déserte que le désert de Libye, monsieur Hassan, il m'a tout raconté. L'arrivée d'une milice dans son village, son père et son frère sous ses yeux assassinés, le village évacué, la fuite au Soudan, au Darfour, la faim, la peur, le retour au pays, 2 ans plus tard, sa mère et ses sœurs disparues, la traversée du désert dans un camion surbondé. Ah oui, quand même, vous aviez quel âge? J'ai dit déjà accablé. 12 ans, il a dit, comme si c'était une banalité. Le désert libyen, la soif, les escroqueries d'esclavage, les camps de réfugiés, le passage en Tunisie. Il a fait toutes les villes de Tunisie une par une. Il m'a raconté toutes les villes de Tunisie une par une, les petits boulots, les lavage, les escroqueries, les passeurs, et puis sa première traversée, bing, le moteur coule et tombe au fond de la mer, 85 personnes sur le canot gonflable qui coule avec. Je dis quoi, il y avait 85 personnes sur le canot? Oui, monsieur Pascal, 85 personnes qui ont coulé. Moi j'ai eu de la chance. Ah oui, de la chance, il a dit qu'il avait eu de la chance. Oui, moi j'ai eu de la chance, j'avais nagé, j'ai nagé, nagé, nagé jusqu'à une bouée rouge, j'ai agrippé, glissé, agrippé, j'avais froid, froid. Il y a un bateau qui s'est arrêté, qui m'a sauvé, j'ai travaillé sur le bateau pour payer mon voyage, mais le bateau, il était tunisien, alors il m'a ramené là où je venais. J'ai été voir le passeur pour dire pour les gens quand même. Et le jour où je suis arrivé devant le passeur, il a tué bam bam 2 personnes devant moi avant que je lui parle. Alors j'ai rien dit pour le naufrage et les gens noyés. C'était plus sage, vous savez. Puis encore eu l'esclavage, les petits boulots, l'escroquerie. Monsieur Hassan, il est remonté sur un autre bateau gonflable, 85 personnes de nouveau. Là, c'est un paquebot qui les a récupérés. Bon, autant vous dire que moi, là qui vous parle, monsieur Hassan, il m'avait tué. Sans compter tous les trucs que j'imaginais qu'il n'oserait jamais raconter. Tous les trous dans son récit, suffit de les remplir d'encore plus d'horreur. Et là, t'as le tableau XL de la barbarie. J'étais là, ahuri, accablé, souriant comme un con, sourire gêné de douleur aigre, genre mal au ventre, chiasseux mais sans toilette. Du coup, toute son année en Italie qui m'a raconté aussi l'esclavage, les petits boulots, l'escroquerie. Je me souviens plus, je peux pas vous raconter. Je regardais ses yeux, sa chemise, son bracelet. Il avait des belles lunettes un peu dorées. La traversée des Alpes, ok, pareil, j'ai un peu zappé, je manquais d'oxygène. La frontière, la neige, les cachettes, les mains, les pieds, j'ai zappé, je m'en excuse. Et puis encore les trains, TGV, les contrôleurs, les descentes, les flics, les remontées. Ok, 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 à l'arrivée à la gare de Lyon, monsieur Hassan, il était très fatigué, genre un peu mourant. Alors la sécurité à la descente, ils ont dit ok, va, on veut plus te voir, ils l'ont laissé. Moi, j'étais déjà complètement mort, allongé par terre, liquéfié, je m'enfonçais dans les dalles de la moquette. Et monsieur Hassan, il continuait, le camp, porte de la chapelle, la manche sur le périph, les tentes éventrées, les duvets, les affaires brûlées. Moi, j'étais déjà sous terre, monsieur Hassan racontait la descente de CRS sur le camp. Finalement, l'arrivée à l'Armée du Salut. Et quel âge ça vous fait maintenant, il a dit 22 ans. À la fin, il me dit, et vous, vous faites quoi, monsieur Pascal? Honnêtement, c'est pas impossible que, même livide comme j'étais, j'ai rougi. J'ai eu quand même le culot de lui dire, je fais ça, regardez, c'est de la poésie. Quelle honte quand même. Ah oui, c'est bien, il m'a dit. Si vous voulez, on peut en écrire ensemble, j'ai dit. Je crois qu'il a eu l'impression que j'essayais de le refaire, genre les petits boulots, l'esclavage, l'escroquerie. Il a dit, une autre fois, merci, c'est gentil. Au revoir, monsieur Pascal. Au revoir, monsieur Hassan, merci. J'ai pris mes petits poèmes, mon petit cartable, et je suis rentré chez moi avec ma petite merde de poésie. net, préférence noire pour les internautes.